Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 11 août 2016. Au sommaire ce soir,
élection présidentielle sur fond de tension en Zambie. 9 candidats sont en lice avec le président sortant Edgar Lungu et son principal opposant Hakainde Hichilema donnés favoris.
Épidémie de choléra confirmée en République centrafricaine.
En Syrie, les combats se poursuivent à Alep malgré la trêve annoncée par la Russie.
Présidentielle américaine, Hillary Clinton dévoile aujourd'hui son programme économique.
Plein feu sur les Jeux Olympiques.
Juste après, le journal.
Suite du procès Jean-Marie Michel Mokoko à Brazzaville, le tribunal a renvoyé au 16 août l'audience concernant sa demande de mise en liberté provisoire. C'est ce qu'indique son avocat, estimant que le général Mokoko n'a plus sa place à la maison d'arrêt. Il est détenu depuis mi-juin pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre.
République démocratique du Congo, l'Association africaine de défense des droits de l'homme exige la libération immédiate de Norbert Louyeye. L'organisation congolaise affirme que l'opposant est détenu au secret depuis dimanche par les autorités. L'Assado, qui parle d'enlèvement, indique que son domicile a été perquisitionné par des militaires armés. Monsieur Louyeye, qui s'était déclaré contre un nouveau mandat du président Joseph Kabila, est le président de l'Union des Républicains, un petit parti politique.
Burundi, l'organisation Reporters sans frontières réclame aux autorités burundaises des preuves de vie du journaliste Jean Bigirimana. Il est porté disparu depuis le 22 juillet, date de son arrestation par les services de renseignement. RSF avait avancé que le renseignement burundais reprocherait à M. Bigirimana ses déplacements fréquents vers le Rwanda, avec lequel le Burundi entretient des relations houleuses. Le journaliste avait été arrêté à son retour d'une formation en journalisme dispensée au Rwanda, selon Reporters sans frontières.
Et destruction des mosquées de Tombouctou au Mali. Le procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devrait s'ouvrir le 22 août à La Haye, devant la Cour pénale internationale. Accusé de crimes de guerre, il plaide coupable. Son procès devrait durer près d'une semaine.
Près de 7 millions de Zambiens ont voté ce jeudi dans le calme pour élire leur président. 9 candidats sont en lice. Un scrutin à l'issue incertaine où deux hommes sont favoris. John Lyndon.
Il s'agit du sortant Edgar Lungu du Front patriotique au pouvoir et de son principal opposant, Hakainde Hichilema, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti uni pour le développement national. Après une campagne entachée par plusieurs actes de violence, aucun incident majeur n'avait été rapporté jusqu'à la mi-journée ce jeudi. Le peuple de Zambie doit prendre une décision très importante aujourd'hui, a indiqué Hakainde Hichilema après avoir voté à Lusaka, ajoutant que le pays connaissait son pire leadership depuis l'indépendance en 1964. Les Zambiens votent 18 mois seulement après la dernière présidentielle organisée pour terminer le mandat de Michael Sata, décédé d'une maladie dans l'exercice de ses fonctions en 2014. À l'époque, Edgar Lungu l'avait emporté de justesse lors d'une élection à un tour. Cette fois, si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour devra être organisé.
En Ouganda, le gouvernement a bloqué les salaires de plus de 5500 fonctionnaires fantômes. Ils sont soupçonnés d'être payés alors qu'ils ne travaillent pas. Eric Manirakiza.
L'opération a été baptisée « Programme d'assainissement de la fonction publique » en vue de rationaliser le secteur public et combattre la corruption. Ainsi, le service public a retiré de ses listes de paye 5586 fonctionnaires soupçonnés d'être fantômes. La mesure est en vigueur depuis juillet dernier. Selon Mururi Mikasa, ministre ougandais de la fonction publique, seuls 308 393 employés du gouvernement ont reçu un salaire pour le mois de juillet. Un audit officiel sur la question a permis l'utilisation des données biométriques pour recenser ces fonctionnaires. Monsieur Mikasa a déclaré que son ministère est en train de soumettre une liste de cas de fraude présumés à la police et à l'inspecteur général du gouvernement pour des enquêtes plus approfondies et de possibles poursuites.
Lutte contre la piraterie, 12 Somaliens jugés à Maurice ont été condamnés à 5 ans de prison pour l'attaque d'un porte-conteneur dans l'océan Indien en 2013.
Cette importante victoire à Sirte en Libye pour les forces gouvernementales. Elles ont pris le contrôle du centre de commandement du groupe État islamique dans cette ville. Mais Bagassikoura, plusieurs quartiers de Sirte demeurent encore aux mains des djihadistes.
Le porte-parole du centre de presse Reda Issa a indiqué à l'AFP hier soir que les djihadistes conservaient encore à Sirte les quartiers résidentiels 1, 2 et 3 qui forment une bande de territoire donnant sur la mer ainsi qu'un complexe de villas proche de la côte. Près de trois mois après le début d'une offensive visant à reprendre Sirte, devenue en juin 2015 le fief de l'État islamique en Libye, les forces du GNA, le gouvernement d'union nationale, se sont emparées hier du centre de conférence de la ville, un complexe qui abritait le QG de l'État islamique. Plus de 300 combattants pro-gouvernementaux ont péri depuis le début de l'offensive de Sirte le 12 mai. Pour l'aider dans la bataille, le GNA reçoit depuis le 1er août l'appui de l'aviation américaine déjà engagée contre les djihadistes en Irak et en Syrie. Et selon le centre de commandement américain en Afrique, 29 frappes ont été lancées depuis sur Sirte jusqu'à mardi. En Italie, la plupart des journaux font état ce jeudi de la présence de dizaines de militaires italiens en Libye depuis la semaine dernière, des informations que le gouvernement italien a refusé de confirmer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a appelé la Russie à des opérations conjointes en Syrie contre le groupe État islamique. L'aviation russe a visé aujourd'hui le fief de Raqqa. Ces raids aériens qui ont fait 30 morts, essentiellement des civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Jacques Aristide.
La Russie affirme que 6 Tupolev ont détruit une usine d'armes chimiques dans une banlieue de Raqqa, de même qu'un entrepôt d'armes et un camp d'entraînement des djihadistes. Des frappes qui ont entraîné des dommages matériels significatifs et tué un grand nombre de combattants, d'après Moscou, allié du président syrien Bachar al-Assad. Pendant que les combats continuent donc à faire rage dans cette ville de Raqqa, une délégation turque menée par le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, se trouvait en Russie aujourd'hui pour évoquer la Syrie, dossier qui opposait diamétralement Moscou et Ankara. Mais dans la foulée de leur réconciliation officielle, le ministre Cavusoglu affirme que la Turquie a proposé à la Russie d'effectuer ensemble des opérations contre le groupe État islamique en Syrie. Ce projet de coopération intervient deux jours après le tête-à-tête entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. Pour sa part, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés appelle toutes les parties impliquées dans le conflit syrien à assurer la sécurité des civils qui, selon le HCR, subissent violence et déplacement.
Encore une activité diplomatique remarquée de Recep Tayyip Erdogan. Le président islamo-conservateur de la Turquie accueille demain à Ankara le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. Ce dernier sera d'abord reçu par son homologue turc Mevlut Cavusoglu. Téhéran a été l'un des premiers pays à exprimer, après le putsch raté du 15 juillet, son soutien au président turc qui s'est plaint amèrement du manque de solidarité de ses alliés occidentaux, États-Unis en tête. Le président turc vient de faire une visite en Russie, scellant sa réconciliation avec Vladimir Poutine après 9 mois de crise diplomatique entre la Russie et la Turquie.
L'Ukraine a placé ses troupes en état d'alerte le long de la ligne de démarcation de la Crimée à la suite d'un brusque regain de tension avec la Russie. Cette semaine, Moscou a affirmé avoir déjoué des attentats fomentés par Kiev sur la péninsule annexée. Les accusations russes ont poussé les deux pays à muscler leurs dispositifs militaires respectifs dans la zone. Un responsable de l'OTAN, cité par l'AFP, a déclaré que l'Alliance suivait la situation de près et avec inquiétude.
La police fédérale canadienne a tué mercredi soir un sympathisant du groupe djihadiste État islamique qui projetait d'actionner quelques heures plus tard un engin explosif dans un lieu très fréquenté. Né au Canada et converti à l'islam au début des années 2010, Aaron Driver a été tué au moment où il s'apprêtait à actionner un engin explosif, a raconté son père au journal National Post.
Course à la Maison-Blanche, la candidate démocrate Hillary Clinton a dévoilé ce jeudi son programme économique, 3 jours après une prestation similaire de son rival républicain Donald Trump. Tandis que le républicain a appelé à une réduction significative des impôts tant pour les grandes entreprises que pour les citoyens, Hillary Clinton a proposé une augmentation d'impôts pour les plus riches, tout en se concentrant sur la création d'emplois et des projets d'infrastructure. La démocrate a promis de faciliter la création de 10 000 emplois si elle est élue le 8 novembre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
Le journal des Jeux Olympiques sur VO Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
L'Afrique a le sourire ce matin avec 3 nouvelles médailles à Rio.
Honneur aux dames, exceptionnelle, la Tunisienne Inès Boubakri qui décroche le bronze en fleuret. L'escrimeuse a battu la Russe Aïda Chanaïeva cette nuit lors de la petite finale 15-11. Retour sur cette médaille de légende avec Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM.
Historique ce mercredi 10 août 2016, première médaille olympique dans une discipline dont les tableaux de récompense n'affichaient jusqu'ici essentiellement que des noms occidentaux. L'héroïne du jour, c'est la Tunisienne Inès Boubakri. Elle a remporté la médaille de bronze en battant la Russe Aïda Chanaïeva 15-11 lors de la petite finale ce mercredi à Rio. Je mérite cette médaille et je suis fier, a-t-elle réagi après avoir décroché cette récompense qu'elle dédie à la femme tunisienne et à toutes celles qui se battent pour la liberté en Tunisie comme ailleurs. Sixième aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, où elle avait été éliminée en quart de finale, Inès Boubakri, 11 fois médaillée d'or lors des championnats africains, a cette fois-ci atteint son objectif et réalisé son rêve. Ce sont les Jeux Olympiques, c'est exceptionnel cette médaille, elle n'a rien à voir avec les autres, a-t-elle souligné à la presse francophone qu'il a interrogée à la zone mixte juste après son match. Et de conclure, je cite, « Je vous assure, je veux la fêter celle-là. » Fin de citation. Ben vas-y championne, tu le mérites bien. Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'haltérophilie égyptienne est aussi à l'honneur, Nicolas.
Mohamed Mahmoud remporte la médaille de bronze en haltérophilie chez les moins de 77 kilos. Sa compatriote, l'égyptienne Sarah Ahmed, remporte la médaille de bronze en haltérophilie chez les moins de 69 kilos. Au total, l'Afrique compte ce jeudi soir 5 médailles.
Mais la journée de mercredi n'a pas souri à tous les athlètes africains.
En volleyball, les Camerounaises battues 3-0 par la Russie. Autre sport collectif, le basket féminin. Les Sénégalaises enregistrent une troisième défaite honorable, celle-là contre le Canada 58-68. En football, les Algériens déjà éliminés affrontaient le Portugal, match nul un partout. Le Nigeria battu par la Colombie 2-0, mais les Super Eagles sont déjà qualifiés. Ils joueront samedi leur quart de finale. L'Afrique du Sud a dit adieu à la compétition après son match nul un partout contre l'Irak. Les Angolaises battues 20-30 par la Norvège chez du handball. Au tir à l'arc, élimination de l'Ivoirien René Philippe Kouassi. En judo, chez les moins de 90 kilos, le Béninois Dosuyovo a été éliminé en huitième de finale par le Suédois Marcus Niemann. Dans le même tournoi, le Congolais qui concourt pour l'équipe des réfugiés, Popol Misenga, a lui aussi gagné un combat avant de tomber en huitième de finale. Et puis en boxe, Dival Forele Malonga Zalamou pour le Congo-Brazzaville, battu par un Ouzbek chez les moins de 64 kilos. Arcangeline Fouji Songbu, haltérophile camerounaise en moins de 69 kilos, dernière avec 187 kilos portés.
En basket, les Américains ont eu chaud.
Les Américains ont dû s'employer pour battre l'Australie 98-88 dans leur troisième match du tournoi olympique. L'Australie était en tête de 5 points à la mi-temps et les deux équipes étaient à égalité au début du dernier quart-temps. Carmelo Anthony sauve les États-Unis en inscrivant 31 points.
Et qu'en est-il des premiers résultats de ce jeudi?
Le 50 mètres nage libre, le Gabonais Maël Ambongilat et le centrafricain Christian Nassif éliminés dès les séries, tout comme Titwende Thierry Sawadogo du Burkina ou encore Abdoul Kadrenian du Sénégal, Bill Scott Irakose du Burundi, Eloi Imaniragua du Rwanda, Albachir Mokhtar du Niger ou Amadou Kamara de la Guinée. En boxe, élimination du Camerounais Smaila Mahaman chez les Walters. Qualification en revanche pour les quarts de finale du Marocain Mohamed Rabih. Sur les tatamis en moins de 78 kilos, la Camerounaise Mbala Tangana Hortense Vanessa battue d'entrée. Quant à la Gabonaise Mazou Saramiriam, elle a pu gagner son premier combat, mais a perdu en huitième de finale. Chez les hommes, catégorie des moins de 100 kilos, élimination du Malien Ayouba Traoré. Tout à l'heure, les basketteurs nigérians sur le parquet face à l'ogre espagnol.
Et vendredi, un choc de l'athlétisme éthiopien.
Les éthiopiennes Almaz Ayana et Tirunesh Dibaba, double tenantes du titre de retour de maternité, vont régler leurs affaires en famille sur 10 000 mètres lors de la première finale de l'athlétisme, le sport olympique numéro 1. Et on rappelle qu'au classement des médailles, les États-Unis sont toujours premiers devant la Chine et le Japon.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Le Fonds monétaire international et le Caire ont conclu une entente préliminaire pour un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans en vue de soutenir l'économie de l'Égypte en grande difficulté. Ce prêt, sous la forme d'un mécanisme élargi de crédit, doit encore être avalisé par le conseil d'administration du FMI. Le Burkina Faso tire la sonnette d'alarme face à l'importation frauduleuse de viande de volaille impropre à la consommation provenant notamment de l'étranger. 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté au Burkina Faso. Le prix du poulet, lui aussi, entre 2 000 et 3 000 francs CFA. L'élevage moderne ne représente que 30% des 40 millions de volailles que compte le pays. 8 millions de dollars, c'est le montant de la somme que les États-Unis viennent d'offrir à la Côte d'Ivoire en vue de la réinsertion socio-professionnelle des réfugiés. Ce fonds porte l'engagement des États-Unis à plus de 11 millions de dollars pour l'année 2016.
À l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Chérubin Gabidorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Tchad.
Le président du Rassemblement des jeunes patriotes pour la démocratie et la défense de l'intégrité territoriale du Tchad a donné une conférence de presse ce jeudi matin à N'Djamena. Cette rencontre avec la presse coïncide avec l'enterrement du jeune manifestant tué par balle le 8 août dernier dans les rues de N'Djamena. La correspondance d'André Kodmajingar.
L'observation post-électorale et les attentes des jeunes du nouveau mandat du président de la République Idriss Déby Itno étaient au centre des débats. C'est une organisation proche du pouvoir, mais qui reconnaît tout de même que la jeunesse tchadienne est manipulée faute d'une bonne éducation depuis plus de 2 décennies. Mohamed Tchali, président du DIR Rassemblement, n'est pas en mesure de dire que la jeunesse tchadienne est manipulée par le pouvoir ou par l'opposition. Il a déclaré que son organisation se propose de porter plainte contre l'opposition pour la mort du jeune tchadien tué dans la rue de N'Djamena, Louis. Août 2016, date à laquelle l'opposition avait appelé à une marche pacifique et dont le corps a été enterré ce jeudi.
Ce jeune n'est pas manifestant. Il n'appartient à aucun parti politique pour sortir. C'est quelqu'un qui obtient son bac en 2016, qui revient voir ses parents et il trouve la mort. Et pour ces questions, c'est une occasion. Le jeune patriote, notre organisation, se propose volontaire pour porter plainte contre les organisateurs de ces marches.
Le ténor du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, notamment Saleh Kebzabo, Ahmad Mahamat Alabo et Joseph Dimrangar Dat Nadi était présent à la levée du corps. Pour Ahmad Mahamat Alabo, ce jeune qui entend porter plainte a raté sa cible.
Le maintien de l'ordre en République du Tchad, tel que défini par la Constitution, c'est fait par la police, par la gendarmerie et par la garde nomade. Mais les éléments de force de troisième catégorie ne sont pas concernés par le maintien de l'ordre. Donc ce jeune bachelier, aux fleurs de l'âge, a été fauché par une balle tirée par un élément, la DGCI, force de troisième catégorie. Nous déplorons cette mort. Donc, au vu de la Constitution, on se trouve dans une situation d'illégalité absolue. La personne qui voulait rester en justice, s'il est parent de ce jeune qui est décédé, il peut naturellement porter plainte contre la personne qui a tiré avec une arme à balle réelle et qui a tué la personne. Et donc, ce n'est pas ceux qui sont sortis ou ceux qui ont appelé à manifester en application totale des droits et devoirs prévus par la Constitution.
Au lendemain de la série des manifestations initiées par l'opposition, l'heure est au règlement de compte. L'on apprend qu'à Abéché, chef-lieu de la région du Wadaï, situé au centre du pays, le secrétaire régional du Parti pour les libertés et le développement a été arrêté ce jeudi matin au sortir d'une rencontre tenue au siège du parti par les agents de l'ANS, Agence nationale de sécurité de la dite région, pour une destination inconnue. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlerons de la politique étrangère des États-Unis. Dans la perspective des résultats de la prochaine élection présidentielle américaine, qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton servira mieux les intérêts de l'Afrique? Réponse avec nos invités. Vos commentaires et réactions sont aussi attendus en direct et sur Facebook. Rejoignez-moi, John Lydon, ce vendredi à 19h, temps universel, sur VOA.
En République centrafricaine, c'est l'alerte maximale au lendemain de la déclaration de l'épidémie de choléra dans certaines zones du pays. Malgré la mobilisation des autorités et de l'Organisation mondiale de la santé, la psychose gagne de plus en plus la population. On fait le point avec Freeman Sipila.
24 heures seulement après l'annonce de l'épidémie, la capitale Bangui vit au rythme de la crainte d'une éventuelle propagation de la maladie. Selon un bilan fourni à l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce jeudi à Bangui, au moins 46 personnes en sont déjà affectées et 13 autres en sont déjà mortes. Plusieurs cas sont aussi recensés à Bangui ainsi que dans la commune de Bimbo. La crainte et l'inquiétude gagnent du terrain dans la capitale.
L'épidémie de choléra en Centrafrique, vraiment, ça provoque des graves inquiétudes en ce moment parce que bon, c'est un problème de santé publique.
C'est vraiment inquiétante cette situation pour le pays parce qu'on a constaté que le pays vient de sortir d'une crise et automatiquement on tombe encore dans une épidémie du choléra, c'est vraiment pénible.
Quelles mesures faut-il prendre pour éviter cette maladie contagieuse? Le médecin généraliste Germé Piamalé, directeur de l'hôpital de l'Amitié de Bangui, conseille le strict respect des règles d'hygiène.
Si quelqu'un a cette maladie et que son entourage prenne des précautions, par exemple, pour se laver les mains, pour entretenir les ustensiles de cuisine, tout ce qu'ils mangent, si c'est bien entretenu, je crois que le risque que cette maladie se propage va être ralenti. Si quelqu'un qui a le choléra, qui va par exemple faire les selles, qui se lave les mains, vous pouvez le saluer, il n'y a aucun risque. Ça dit que c'est l'hygiène des mains, c'est l'hygiène de tout, c'est l'hygiène tout court.
Dans la foulée des mesures préventives, la Croix-Rouge centrafricaine a annoncé un numéro vert, le 4040, numéro sur lequel les populations peuvent appeler en cas de suspicion d'un malade de choléra. La Croix-Rouge va aussi mettre à la disposition du centre de traitement des épidémies les outils nécessaires et une équipe de volontaires. Son président, Antoine Baobogo.
La Croix-Rouge centrafricaine, auxiliaire de pouvoir public, est fortement impliquée comme d'habitude dans le plan de réponse en mettant à la disposition du centre de traitement des épidémies, des équipements de protection individuelle et une équipe de volontaires bien formés qui vont intégrer l'équipe de prise en charge des cas. À cet effet, nous voulons interpeller le public centrafricain et en particulier les riverains du fleuve Bangui ainsi que tous les Banguissois au strict respect des gestes d'hygiène élémentaires, de lavage de mains avec du savon à tout moment.
La mobilisation devient de plus en plus importante contre cette maladie dont le foyer est la ville de Ndjoukou située à plus de 200 km de Bangui, précisément dans la préfecture de la Kémo, au centre du pays. Freeman Sipila, Bangui.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Nous partons dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, Morgane.
Où les actions humanitaires sont remises en question. Plusieurs milliers de jeunes ont bloqué la route aux véhicules des ONG sur l'axe Goma-Massissi. Ils exigeaient des clarifications sur leurs interventions jugées sans impact. De Goma, la correspondance de Charlie Kazereka.
Parmi les reproches que ces jeunes ont formulés à l'égard de ces organisations internationales, il y a l'exécution des projets qui, d'après eux, ne cadrent pas avec les problèmes de leur communauté. En jouant aussi l'importation des main-d'œuvre, Augustin Dagijimana rencontrait sur la route où une barrière a été érigée pour bloquer l'accès aux humanitaires dans la zone d'intervention.
En tout cas, trop c'est trop. Les gens ne peuvent pas jamais venir justifier autant de millions dans notre territoire, sans nous, sans résultat, sans impact, si ces ONG veulent travailler chez nous.
Les bureaux de coordination des affaires humanitaires OCHA au Nord Kivu signalent que les conséquences seront énormes si la situation perdure, mais projettent une rencontre avec ces jeunes pour des pourparlers afin de décanter la situation. Vicky Prekabo est l'assistant communication au bureau OCHA au Nord Kivu.
Il y a plus de 142 000 personnes déplacées qui risquent d'être privées d'assistance. résistance.
Les activistes des droits de l'homme dans la région, qui certains soutiennent l'action, appellent tout de même les gouvernements congolais avec leurs collaborateurs d'écouter les revendications et y apporter vite des réponses. Doufina Tabou dirige une association de la société civile ici au Nord Kivu.
Tout ce qu'on fait ici, moi j'ai dénoncé ça, ça fait des années et des années. Il y a des gens qui bouffent l'argent ici. Je crois que c'est une bonne révolution qu'il faut encourager. Ils ont droit au travail. Et ainsi de suite, s'il y a maintenant les jeunes qui prennent les armes, tout ça c'est dit à cela.
Le ministère des Plans a entamé des discussions depuis ce mercredi dans la soirée avec ce jeune pour lever des barrières mises sur la route Goma-Massissi. Marie-Sema Chibaeni, ministre des Plans et des Communications en province.
Peut-être ils attendent plus des ONG internationales que ce qu'ils peuvent faire. Alors, il y aura une chance de formation et c'est sûr qu'on va trouver un compromis.
Les territoires de Massissi, situés à plus de 80 km à l'ouest de Goma, capitale provinciale, plus de 160 000 personnes déplacées nécessitent une assistance humanitaire. La région connaît des guerres à répétition entre les multiples groupes armés et l'armée loyaliste. Charlie Kasereka, depuis Goma, pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton dévoile ce jeudi son programme économique. Son adversaire républicain Donald Trump est empêtré dans une autre controverse en lançant une virulente attaque contre la politique du président Barack Obama en Irak et en Syrie. Timothée Donangmaï.
L'ancienne secrétaire d'État a choisi Warren dans l'État du Michigan pour présenter son plan économique qui, dit-elle, aidera la majorité des Américains. Selon Mme Clinton, le plan de Trump fournit des réductions d'impôts aux gens riches comme lui. Mercredi, dans l'État de l'Iowa, Hillary Clinton a assuré que son plan contribuera à la création de 10 millions de nouveaux emplois. Tout au long de la campagne, la candidate démocrate n'a cessé de répéter que si elle arrive à la Maison-Blanche, elle tentera de faire approuver de nouveaux impôts pour les Américains les plus riches. Également au programme de Mme Clinton, une revalorisation du SMIC fédéral qui est actuellement de $7,25. Son initiative de relance économique, un plan de $125 milliards présenté l'année dernière, prévoit notamment une enveloppe de $25 milliards pour aider les Américains les moins fortunés à accéder à la propriété foncière.
Côté républicain, Timothée, nouvelle déclaration controversée de Donald Trump. Cette fois-ci, le candidat républicain accuse le président Obama d'avoir fondé le groupe terroriste État islamique.
Ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'aventure sur ce terrain. Il avait précédemment accusé son adversaire démocrate, Hillary Clinton, d'avoir soutenu des politiques ayant conduit à la création du groupe État islamique. Mais lors d'un meeting électoral à Fort Lauderdale, en Floride, Trump a été plus précis, établissant un lien direct entre le président Barack Obama et les terroristes du groupe État islamique.
ISIS is honoring President Obama. He is the founder.
Le groupe État islamique vénère le président Obama. Il en est le fondateur. Et je dirais que la cofondatrice est Hillary la malhonnête. À noter que Mme Hillary Clinton a voté pour la guerre en Irak lorsqu'elle était sénatrice. Barack Obama, qui n'était pas encore au Congrès à l'époque, s'était publiquement opposé à l'invasion irakienne menée par les États-Unis et perçue par beaucoup comme une guerre déstabilisatrice ayant précipité la Syrie dans la crise actuelle.
Merci Timothée Donangmaï.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
L'émission de ce jeudi touche à sa fin. Merci, Joselle Morissin, d'avoir assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Nashwan Kale. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.